VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le responsable de la communication présidentielle au Burundi, Willy Nyamitwe, figure publique du pouvoir, a échappé lundi soir à une tentative d'assassinat, première du genre depuis des mois, et signe que ce pays en crise reste extrêmement instable. Monsieur Nyamitwe sortait d'une réunion à la présidence et rentrait chez lui lorsqu'il a été accueilli par un feu nourri et des explosions de grenades au moment où il s'engageait sur la petite route qui mène chez lui dans le quartier de Kajaga, dans l'ouest de Bujumbura, assuré à l'AFP un haut cadre de la présidence sous couvert d'anonymat. Monsieur Nyamitwe a été légèrement blessé et recevait des soins dans un hôpital de Bujumbura. L'un de ses gardes du corps a été tué et un autre blessé. La police assure que les assaillants non identifiés étaient embusqués dans une maison en construction. Aucun d'entre eux n'a été arrêté et une enquête est en cours au Burundi. Audience publique ce mardi du Congrès américain sur la République démocratique du Congo et plus précisément devant la Commission des droits de l'homme. Il sera question de démocratie pour les panélistes qui s'exprimeront devant des représentants du peuple américain, alors que la date du 19 décembre approche à Kinshasa et qu'aucun compromis n'a été trouvé en toutes les composantes de la classe politique congolaise. Parmi ceux qui vont témoigner tout à l'heure au Congrès se trouve un enseignant d'origine congolaise à Johns Hopkins University. Il s'agit de Mwamba Dizolele. Voici ce qu'il dit des signaux que projette Washington sur la crise en RDC.
À Washington, la situation est plus nuancée que ça. Washington ne parle pas d'une même voix. Il y a le Congrès où il y a différentes voix. Il y a l'ambassade américaine à Kinshasa qui est plus peut-être modéré dans ses déclarations, mais il y a aussi le département d'État et l'envoyé spécial. Donc même là, je pense qu'on est d'accord que les États-Unis encouragent le pourparler, mais les États-Unis tiennent à ce que la Constitution soit respectée. La Constitution, le respect de la Constitution accorde au président deux mandats de 5 ans chacun. Au cas échéant, la Constitution prévoit que le transfert de pouvoir va du côté du président du Sénat, qui va gérer une transition pour 90 à 100 jours. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est quand même difficile de croire qu'on pourrait avoir les élections dans 90 jours. La commission électorale a commencé la révision du fichier électoral, ce qui prendra du temps. Donc il y a beaucoup plus d'éléments qu'il faudra gérer, mais l'esprit de la Constitution, tel que les États-Unis l'encouragent, demande à ce que les stipulations soient respectées.
Professeur Mwamba Dizolele de Johns Hopkins University. Un sommet régional sur la situation politique et sécuritaire dans une dizaine de pays d'Afrique centrale se tient mercredi à Libreville au Gabon à l'initiative de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. La lutte contre les djihadistes de Boko Haram au Cameroun et au Tchad et les affrontements entre groupes armés en Centrafrique, l'instabilité politique en RD Congo et au Burundi devraient être au menu de ce sommet extraordinaire de la CEAC. La situation et les tensions post-électorales au Gabon, au Congo et au Tchad devraient aussi être évoquées, a indiqué le secrétaire général de la CEAC, Ahmed Amami, cité par plusieurs sites d'information africains. Le chef de l'État gambien, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, sera confronté pour la première fois à un véritable défi dans les urnes. Lors de l'élection présidentielle de jeudi face à une opposition qui fait bloc autour de son candidat. Les trois candidats en lice, Yahya Jammeh et Adama Barrow, désignés par 7 partis d'opposition, et Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir, qui se présente sous les couleurs d'une nouvelle formation, tous âgés de 51 ans, achèvent leur campagne électorale mardi. Jeudi, environ 890 000 Gambiens sur quelque 2 millions d'habitants sont appelés à choisir leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
VOA Afrique, le dossier de ce jour. En Guinée, environ 4000 accidents de la circulation sont enregistrés par an. La majorité des automobilistes sont obligés de prendre en charge les frais de réparation, faute d'assurance. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Il n'est pas rare de voir des victimes d'accidents de la route dans les hôpitaux et autres centres de santé en Guinée. Ils sont plus de 1400 blessés graves enregistrés par an, mais des malades dont la majorité n'est pas assurée. Le centre Mère et Enfant traite parfois des malades avec ses propres moyens. Mamadou Debary, médecin.
On rencontre des difficultés parce que parmi ces patients, il y a beaucoup d'indigents qui ne peuvent pas faire face aux frais des prestations. Ils sont obligés d'utiliser les maigres moyens de la structure pour traiter ces patients.
Les personnes non assurées devraient pourtant être prises en charge par un fonds de garantie automobile. Mais cette structure mise en place par l'État guinéen et dont la caisse est alimentée par les sociétés d'assurance est peu connue du grand public. Pour Ibrahima Keïta, ex-secrétaire général de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, cette défiance s'explique.
Quand on parle par exemple de l'assurance vie, la Guinée est un pays de musulmans à 85%. Beaucoup sont réticents sociologiquement et culturellement à l'assurance vie. Et aussi le revenu fait que certains Guinéens ne s'intéressent pas à l'assurance. Quand vous prenez l'assurance automobile par exemple en Guinée, sur 100 véhicules qui circulent, vous avez à peine 25-30 véhicules qui sont assurés. Donc si le taux de pénétration est faible, la masse des assurés est faible, cela fera que la trésorerie des sociétés d'assurance sera elle aussi faible.
L'assurance automobile est obligatoire en Guinée, mais elle peine à être effective.
Les lois de notre pays en matière d'assurance ne sont pas respectées. Il y a des lois qui oblige les usagers de la route à prendre l'assurance automobile. Il y a une loi aussi qui oblige l'assurance des marchandises à l'importation. Mais ça ne se fait pas sur le marché. Les opérateurs économiques n'assurent pas leurs marchandises à l'importation. Il y a aussi une loi qui oblige les entreprises minières, les entreprises de travaux publics et de construction, etc. Bref, toutes les grandes entreprises à souscrire des contrats d'assurance en Guinée. Parce que les risques sont localisés en Guinée.
La Guinée a un nouveau code d'assurance. C'est le texte de 1995 qui a été révisé et adopté par l'Assemblée nationale. Il devrait permettre au secteur des assurances de participer plus activement au développement du pays. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Nouvelle monnaie sous forme de billets et d'obligations au Zimbabwe. L'initiative répond au souci de résoudre le problème de manque de liquidité. Mais cette monnaie suscite de vives préoccupations dans les milieux d'affaires comme chez les gens ordinaires. Ertsi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée en Afrique du Sud, pense que le changement de monnaie au Zimbabwe est une entreprise vaine.
Déjà au Zimbabwe, la monnaie est devenant de plus en plus rare. Ça pousse les gens à trouver des moyens, même criminels, de pouvoir obtenir la monnaie. Parce qu'il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire avec la nouvelle monnaie qu'ils ont introduite. Et le Zimbabwe, il n'y a déjà rien de produit localement. Tout dépend des imports qu'ils font à partir de l'étranger. Ça devient difficile. De l'époque où il y avait le dollar zimbabwéen qui a obtenu un taux d'inflation de 100 000%, un record mondial déjà. À maintenant, il n'y a rien qui a changé. L'économie est toujours au plus bas et la politique monétaire est quasiment la même. Il y aura l'inflation et ils vont retourner au dollar parce qu'il n'y a vraiment pas de vision ou de plan pour sortir le pays du chaos économique. Donc la même situation va se répéter.
Elzi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Orb. Au Soudan, les services de sécurité soudanais ont saisi mardi, aujourd'hui donc, tous les exemplaires de 4 quotidiens indépendants après la publication d'appels de l'opposition à des manifestations contre la hausse du prix des carburants. Les agents du puissant service national de renseignement et de sécurité, l'ANIS, du Soudan, ont confisqué dans la nuit les exemplaires d'Altaya, Al-Jadida, Al-Ayam et Al-Ayoumt Al-Tali sans fournir d'explication.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Maghreb, pour finir, le Qatar va soutenir l'économie tunisienne à hauteur de 1,25 milliard de dollars, a annoncé son émir aujourd'hui à Tunis, à l'ouverture d'une conférence économique destinée à remettre la Tunisie sur la carte de l'investissement. La conférence des investisseurs Tunisia 2020, qui se déroule aujourd'hui et demain à Tunis, met plus de 140 projets sur la table pour quelque 30 milliards d'euros. Plus de 2000 participants de Tunisie et d'une quarantaine de pays sont présents à ce rendez-vous, destiné à remettre la Tunisie sur la carte de l'investissement en Méditerranée, selon le gouvernement, 6 ans après la révolution. Et puis, Amnesty International a dénoncé aujourd'hui le non-respect par l'Espagne du droit d'asile dans les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla au Maroc, des territoires sans droit pour les migrants et réfugiés, selon l'ONG. L'Organisation de défense des droits de l'homme a recensé 8 types de violations de droits de migrants dans ces enclaves, seule frontière terrestre entre l'Europe et l'Afrique. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.